Ruquier, de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Et nos drôles de dames sont là. David Lorto est avec nous. Bonsoir, David.
Allô, Freunde. Salut, messieurs. Salut à tous.
Quel plaisir, David, de te retrouver.
C'est dur d'arriver jusqu'ici.
C'est bien que tu sois avec nous physiquement maintenant en plateau. Voilà, les gens peuvent te voir sur RMC Sport Access.
On essaye.
Et puis nous aussi.
On essaie de se démultiplier, d'être un peu partout.
Il va y avoir. Ça ne regarde pas. Ça.
Non, mais ça, oui.
Non, on te remercie de le faire pour nous donner le bonheur de te voir.
Il est beau, il est élégant, il a la forme, il pète la forme de Simone Rovera est avec nous. Ciao, Simone.
Des informations moins. Ciao, mon assez bonsoir.
Attends, aujourd'hui, t'en as accumulé des miles aujourd'hui, toi.
Oui.
Ah oui, oui. Tu viens de Rome.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que j'étais à Rome ce matin.
Et qu'ils allaient faire à Rome.
Et on va voir mercredi.
Sur RMC Sport. Di Francesco qui va se faire virer, t'es allé le voir avant de se faire.
J'ai allé voir Javier Pastore.
Oh, raconte, c'est-à-dire pourquoi,
qui est en pleine forme aussi.
T'es allé à l'hôpital pour le voir, non?
Ah, le méchant, c'était là.
Il a un petit souci,
mais il est pas loin de la vérité.
Il a toujours des petits soucis, mais c'est des petits soucis qui ont
été. Il a un petit souci au mollet.
Ah, bah oui, c'est un petit souci, ça fait
pas l'hôpital.
C'est des années qu'il a ce souci au mollet.
Et voilà, il a un corps, mais on va les retrouver mercredi soir avant Real Madrid.
Tu sais quoi, il est tellement doué techniquement, il peut pas se faire une ablation du mollet droit là et jouer qu'avec un seul mollet.
Tu sais qu'il y a des joueurs,
il va y arriver.
Il y a des joueurs qui ont fait toute leur carrière avec un mollet. Sébastien Mazur par exemple, il avait des soucis. Ouais, il avait des soucis sanguins au mollet parce que les muscles écrasaient les veines, etc. Non mais je compare pas les deux.
Donc tu es en train de parler de Sébastien Mazur au moment où on parle de la Ligue des Champions.
Tu sais que j'ai bossé avec Mamaz, excellent consultant.
Bah oui,
avec lui sur ma chaîne.
Excellent, excellent.
Meilleur consultant que joueur d'ailleurs.
On peut dire qu'il est quand même allé chercher très très loin.
Mais il a bossé avec.
Ça montre la culture du mec en même temps.
Ouais, Saint-Étienne.
Messieurs, il n'a pas de problème de muscles. Parce qu'il n'en a pas, s'il vous plaît, accueillons Fred Hermel. Bonsoir, Fredo.
Le fils de Bruno.
Si j'ai des muscles.
T'as des muscles.
Je suis au gymnase tous les matins, moi.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait?
T'es au gymnase.
Tu vas pour mater, toi, tu vas pas pour
faire des sports. Du vélo et puis de la muscu.
Donc le truc que nous on appelle salle de sport ici, toi t'appelles ça gymnase, toi.
Ben, gymnasio, c'est un hispanisme que je fais. C'est la gymnasio, la salle de sport, voilà.
Oui, gymnasio.
Ça va, je fais un hispanisme. Hola, chicos. Oh bah, je fais 45 minutes de vélo, puis après un petit peu de muscu, quoi.
T'as perdu un peu ou?
Ouais, j'avais perdu l'an dernier quand j'étais malade, mais j'essaie de pas reprendre. Mais ça va, je suis pas mal. C'est alors c'est pas la jeunesse de triomphante de Simone Rovera, mais bon, ça se maintient.
Jeunesse
triomphante. Pas de quoi.
Eh ben tiens, mon Fredo, on va justement commencer par toi, jingle Fred Hermel.
Je suis un journaliste objectif, je parle du Barça comme d'un des clubs, etc. Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner nos mecs, les mecs. Franchement, sérieux là.
Ce montage, soir-là, je n'étais pas là. J'ai raté
ouais,
quand
montage.
Même.
Ça montage. Mais c'est vieux ça, non?
Ouais, c'est vieux.
Ah oui, non mais ah bah oui, c'était le soir du PSG, c'est à l'époque où je m'entendais bien que les gens du PSG, ça. Mm-hmm. 4-0.
Alors petit point sur les résultats de la quatrième journée de Liga. Un partout entre l'Atlético et Eibar, on va y revenir dans quelques secondes.
En revanche, un moment t'as employé un mot qui commençait par O, j'ai pas compris en fait. O, B, j'ai pas compris le mot que t'employais.
Obligan?
Dans le jingle?
Non, il disait, je suis un journaliste, O, B, J.
Ah, Obligan.
Ouais, mais là, c'était de l'humour, parce que je ne crois pas à l'objectivité, je ne crois qu'à l'honnêteté.
Victoire du Barça ce week-end 2-1 à Saint-Sébastien, un partout entre Bilbao et le Real Madrid. Séville a perdu 2-0 face à Retafe, Valence et Betis ont fait match nul 0-0. Alors Monfredo, on va se faire un petit point sur le calendrier des clubs espagnols en Ligue des Champions.
Ouais.
Ce sera à suivre sur RMC.
Mais attends, tu permets simplement une remarque?
Oui, vas-y.
Sur les résultats que tu as donnés, 10 matchs. Ouais. 9 matchs sont terminés avec 0 ou un but de différence. Il y a que la victoire de Retafe Séville avec deux matchs. Sinon tous les autres, il y a c'est une journée hyper serrée quoi, où il a tout le monde à batailler quoi. C'était très intéressant, passionnante.
Et demain à 18h55, il y aura Barça PSV, à 21h, il y aura Monaco Atlético de Madrid, mercredi 21h, 2 matchs Valence Juve et Real Madrid Roma. Alors on va débuter par un mini avait tranché Monfredo. Alors pour toi, Monaco a une forte chance demain de battre l'Atlético de Madrid.
Alors,
et Colchoneros.
Donc toi, t'as pas vu Monaco.
Attention, c'est pas exactement ça.
Alors, vas-y,
je veux dire que c'est le moment de prendre l'Atlético. Voilà. Je sais pas si Monaco va gagner.
Ah, oui.
Mais
okay.
En tout cas, s'il y a un moment pour les prendre, c'est pareil.
Encore
en ce moment.
Faut-il être capable de prendre, hein.
Voilà. Mais là, l'Atlético est pas bien. L'Atlético est pas bien. Ouais. Et ce qui est très étonnant, tout à l'heure, j'utilisais une image dans Team Duga, pardon. Mais Bugatti, voilà, c'était un truc comme ça. Voilà, je rêvais de voiture. Parce que vous allez comprendre, parce que c'est un peu comme une voiture de Formule 1 en fait. Le moteur est top, la carrosserie est parfaite, tout est bien, mais il n'y a pas les réglages. Et j'ai le sentiment que cette équipe de l'Atlético, qui pour moi a l'un des meilleurs effectifs européens, vraiment un très bon 11 et de très bons joueurs sur le banc, n'est pas prête. Il y a encore des ratés, notamment au niveau défensif. Quand on voit par exemple que le départ de Gabi Fernandez, capitaine qui faisait pas beaucoup de bruit mais qui était essentiel dans le rouage de l'équipe, cette espèce de vieux briscard du foot espagnol qui apportait beaucoup d'équilibre, ouais, Gabi, défensif. Gabi, bah ouais, c'est quand même pas n'importe qui quoi. Donc il est parti faire de l'argent au Qatar mais voilà, et pour l'instant, on peut pas dire que le système fonctionne bien sans Gabi. Après, il y a une grosse inquiétude autour d'un type qui semblait invincible, qui s'appelle Diego Godin, parce qu'il fait des erreurs, mais qu'il en fasse une, ok. Sauf que là, il en a fait une énorme à Valence, ça a coûté 2 points. Il en a fait une énorme à Vigo, ça a coûté 3 points.
Godin qui fait des erreurs, c'est sûr.
Ouais.
Que
si mais des erreurs graves, du style, je tombe au lieu de tacler et l'attaquant marque. Voilà, c'est vraiment les grosses bévues quoi, hein, les grosses bourdes quoi. Et ce week-end, même s'il n'est pas directement responsable sur le but, ça part déjà d'une mauvaise relance de Godin.
Bah, c'est vrai. Donc, le début de saison de l'Atlético, c'est 5 points en 4 matchs, hein, une victoire, une défaite face au Celta, 2 nuls, Valence et les Eibar, c'est pas fou. Hein.
Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Atlético est quand même très mal parti en Liga, qui est, même si l'objectif c'est la Ligue des Champions, parce que comme vous le savez, la finale va se jouer au Wanda Metropolitano à Madrid. Voilà, l'Atlético, ont une équipe, et j'étais le premier à le dire, pour tenter le doublé, comme ils ont failli le faire en 2014, c'est-à-dire finir avec des champions et vainqueurs de la Liga. Ils ont une meilleure équipe qu'à l'époque, vraiment. Et surtout un meilleur banc. Donc, s'il y a un moment, et j'en termine là-dessus, pour prendre l'Atlético, c'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Donc finalement, le calendrier est plutôt bon pour Monaco. Je sais pas si Monaco va gagner, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais je suis sûr que Jardim l'aura vu.
Ouais. Vous partagez l'analyse de... C'est vrai quand on voit les résultats de l'Atlético.
Encore une fois, qu'il soit bon et qu'il soit bon à prendre, qu'en ce moment ce soit pas bien réglé, oui, il a raison. Il suffit de voir les matchs, tu regardes les résultats, tu vois bien qu'il y a des choses qui vont pas. Le problème, c'est que si en face on avait une grosse équipe, elle pourrait peut-être ramasser les pièces dans le jackpot. Mais là, c'est Monaco et Monaco, ils vont pas beaucoup mieux. Ils vont même presque moins bien que l'Atlético. Ils avancent pas, ils font match nul contre Toulouse. Ils perdent contre Marseille, ils sont pas... Non, Monaco, c'est pas non plus le candidat pour prendre cet Atlético qui, soi-disant, est bon à prendre. Donc, le problème, c'est ça, Fred.
Sachant que groupe, t'as un Dortmund qui est pas au point non plus. Donc, c'est un groupe un peu...
Oh, le groupe, merde.
Mais c'est vrai que
c'est Bruges. C'est Bruges qui est bien, du coup, alors.
Hey, c'est le club des filles faciles. Hein. Ils sont tous bons à prendre.
C'est Bruges, premier avec 12 points.
Tous bons à prendre. Ça, c'est un groupe de... Oui, Fred, il aime bien les bons.
Ou des mecs faciles.
Ouais, mais sauf que là, il y a quand même le seul truc. Alors, je vais pas changer mon discours, mais vous avez quand même des Griezmann. Vous avez quand même des Lemar qui est sûrement l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético depuis le début de la saison. En plus, il joue chez lui. Bon, enfin, c'est dans son ancien club.
Ah, donc entre moyens, si la diff doit être faite, elle sera faite par les bons joueurs.
Bah voilà, exactement. Parce que c'est vrai que collectivement, parce que en fait, pour être plus précis, collectivement, l'Atlético a des ratés. Sauf qu'individuellement, t'as tellement de joueurs qui peuvent faire la différence tout seul.
Peut-être que Monaco
voilà.
prendra pas une danse, quoi.
Ah, bah, voilà. De toute façon, l'Atlético, c'est pas trop le genre à coller des tartes, hein, mais bon. Voilà.
Non, sauf non, c'est pas vraiment l'équipe qui va qui quand il a marqué le 4e va chercher le 5e et le 6e quoi. Non, c'est une équipe
qui
a
déjà conservé un résultat. À quel niveau la danse? Pour moi, à 4-0, c'est déjà une danse, hein.
Oui.
Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire.
Même à 3-0.
Comme en finale de la Ligue Europa, tu veux dire?
Oui,
il faut le dire.
Le Real qui jouera mercredi face à la Roma. Alors le Real qui a perdu ses premiers points ce week-end en Liga, match nul un partout à Bilbao face à l'Athletic Bilbao. Qu'est pas ça, Fredo?
Que c'est un bon résultat d'aller faire match nul à Bilbao, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on connaît un minimum la Liga, j'ai fait un tweet l'autre jour, on m'a dit, Marseille a gagné là-bas. Je dis, oui, comme vous voulez, mais enfin, l'Athletic Bilbao. Bien sûr, mais sauf que l'Atlético Bilbao. Je termine la phrase. L'Atlético de Bilbao quand il reçoit le Real, mais le match était super quoi. C'était un match d'une énorme intensité. C'était un vrai combat. C'était un match. J'ai eu l'impression de voir un vieux match de foot. Des vrais vieux matchs de la Liga quoi. C'est-à-dire que à Bilbao, les mecs, il y a 8 cartons jaunes. Ils ont frôlé plusieurs expulsions. Ils ont mis le pied. Et à la fin, ils se sont tous salués en disant, putain les mecs, on a fait un grand match de foot quoi. C'était vraiment bien. Le Real aurait pu gagner, sauf qu'il y avait un mec en face. Vous savez, Kepa Arrizabalaga, le jeune gardien de la petite Bilbao, il a été vendu à Chelsea 80 millions. Et ils ont sorti un petit gars du chapeau, parce que le deuxième gardien, Yago Herrera, est blessé. Un petit gars, 21 ans, avec plein d'acné sur la tronche, qui a fait 3 arrêts extraordinaires en fin de match. Mais Bilbao, si en contre, aurait pu l'emporter en fin de match. Donc c'était un vrai bon match de football, qui, d'un point de vue comptable, est un mauvais résultat. Mais sur ce qu'on a vu, il y a quelques enseignements qu'on peut avoir. Par exemple, que Casemiro, qui revenait du Brésil où il avait joué, etc. Bon, il est arrivé jeudi matin à l'avion. Il a débuté sur le banc. Bon, comme toujours, Casemiro, il est essentiel dans cette équipe. On le sait. Le Brésil le sait. A perdu en quart de finale du Mondial parce que Casemiro n'était pas là. Donc, mais d'un point de vue de ce qu'a montré le Real Madrid face à une excellente équipe de Bilbao dans ce qui est un contexte toujours différent, c'est l'un des grands classiques du football espagnol. C'est pas un match qui va affecter négativement les Madrid. Même si, au niveau comptable, ils ont perdu 2 points sur le Barça, qui lui a réussi là où en général il ne réussit pas, c'est-à-dire à Saint-Sébastien, avec notamment un magnifique.
D'ailleurs, les deux étaient dans les clubs basques où il n'est pas facile d'aller se balader quand même.
C'est toujours très compliqué. Et le Barça a un gardien extraordinaire. Quand même.
Bah tiens, parlons du Barça justement, qui a gagné 2-1 à Saint-Sébastien. Dembélé a encore marqué d'ailleurs. Il en a 4 buts cette saison.
Il joue Dembélé au Barça là. C'est quoi, comment ça marche l'équipe là?
Bah, il joue à la place de Neymar, quoi.
Voilà. Il a fait un bon début de saison. Hein.
Ah ouais, il est très bien.
Il fait un bon début de saison.
Aujourd'hui, il est le remplaçant de Neymar et il a la liberté qu'avait Neymar. Il a le culot qu'avait Neymar. Après, ça bouge beaucoup. En attaque, je veux dire, avec les trois de devant, ça permute beaucoup. Mais Dembélé, il a un culot énorme. Il a un culot de champion du monde. C'est plus le même mec l'année dernière. Il est revenu avec un autre statut. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne des victoires au Barça. Il y a 2 joueurs essentiels aujourd'hui, qui s'appellent Dembélé et Ter Stegen. C'est-à-dire c'est eux aujourd'hui qui au Barça apportent des points. D'ailleurs, Dembélé est le joueur de la Liga qui a apporté le plus de points à son équipe. Il a permis de gagner le premier titre de la saison, c'était à Tanger, c'était la Super Coupe d'Europe Super Coupe d'Espagne contre Séville. Voilà, il est revenu de la Coupe du Monde avec un autre esprit, avec une autre légitimité, et il se permet des choses sur le terrain, c'est-à-dire dans le fait de tenter, hein, de tenter, alors que parfois l'an dernier c'était un peu plus compliqué, bah que l'an dernier il n'osait pas. Donc moi, Dembélé va être essentiel pour le Barça cette saison. Alors la Liga, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas moi qui le dis, c'est Messi. La Liga, c'est bien pour le Barça, mais leur objectif principal, mais à mort, plus que n'importe quel autre club en Espagne, c'est la Ligue des Champions. Et j'ai très envie de voir ce qui va se passer dès demain, parce que je pense que le degré de motivation des Catalans demain, en tout cas dans cette compétition qu'on appelle Ligue des Champions, va être supérieur à la Liga. Et ça risque de faire très mal parce que.
Et Messi, c'est devenu l'option. Il y a longtemps finalement qu'on en parle plus. C'est tellement évident à chaque fois de parler de lui. Comment il est revenu de la Coupe du Monde, comment il démarre sa saison.
Il va mieux parce qu'il a l'Argentine. Quand il fait un break avec l'Argentine, ça va beaucoup mieux. Il est heureux au Barça. C'est quand il est en Argentine qu'il est pas heureux, qu'il se sent pas aimé, qu'il se sent attaqué de toutes parts. Ça, on le sait. Là, il a pris la décision très bonne pour lui de couper avec la sélection. Il a pas fait un grand match à Saint-Sébastien, mais je suis persuadé que demain il va faire un bon match. Messi est heureux quand il est pas en sélection argentine. Voilà.
Tiens, il n'y a pas de successeur
pour lui.
On est dans la supputation, dans le fantasme, dans tout ce que tu veux. J'ai vu ça là, qui a défilé là. On sait que Beckham va lancer sa franchise là, Miami, là, l'Inter Miami. Son fantasme, lui aussi, c'est de faire venir Messi. Tu crois à ça ou pas?
C'est dingue que tu me parles de ça.
Oula. Pourquoi il t'a appelé ou quoi?
Very grave.
Non, mais j'ai dîné il y a 15 jours avec un ami argentin.
Ah.
Qui m'a parlé de la même chose. Et il a quelques connexions assez sympathiques. Et voilà, il y a un plan. Messi va reprolonger son contrat d'après ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà, je vous parle d'une discussion, c'est pas une exclusivité, je parle d'une discussion avec un ami, et que Messi est très intéressé par l'idée de Beckham. Mais avant, il va reprolonger avec le Barça, etc. Mais à un moment, son objectif, ça serait, et il semblerait qu'il en ait déjà parlé avec Beckham, d'aller à Miami. Donc c'est pas du tout ce que tu dis. Un ami m'en a parlé il y a 15 jours.
Moi je dis rien, je l'ai lu, j'ai lu ça dans la presse espagnole et
États-Unis. Il a maintenant Messi.
29.
Ah, je croyais qu'il avait la trentaine déjà.
Ouais, moi aussi.
Il a déjà 30 ans.
Ouais, c'est le genre de mec qu'on sait jamais.
31 les mecs.
On sait même plus l'âge.
31 depuis le mois de juin, tu
vois. Mais c'est qu'on va jouer depuis tellement longtemps que c'est ça le truc.
C'est vrai qu'il joue depuis tellement longtemps, il a tellement gagné que dire bon, moi je vais vivre à Miami, j'emmène la famille et tout.
Ouais, c'est pas mal.
Non, mais là, parce que là encore quoi.
Il y a pire endroit.
3-4 saisons à Barcelone, puis à 35 ans, tu vas à Miami. Voilà, c'est top.
Si Beckham avait monté une franchise à Dunkerque, je suis pas sûr, ça le branche.
Mais c'est très bien Dunkerque,
faut pas de Dunkerque.
Et puis en plus, je te dire que,
avec entre Miami et Dunkerque, tu m'autorises à préférer Miami.
Pour le moment.
Franchement, il y a pire que Dunkerque.
Mais moi, je te dis, pour ma retraite, quand il y aura le réchauffement climatique, le Nord-Pas-de-Calais, ça sera toi pour ma retraite.
Moi, je participe pas. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais sincèrement, Dunkerque, ok, t'as la partie reconstruite et tout, mais le côté plage et tout, franchement, je trouve pas.
C'est pas bien. Ce sont les plages les plus vieux de France. Et puis, c'est très bon pour la santé.
Mais comme Boulogne-sur-Mer, le centre-ville est mignon. Le centre-ville de Boulogne-sur-Mer, c'est mignon.
Monsieur, okay, vous en faites quoi des gens qui vivent à Dunkerque aussi, ça compte, non?
Eh ben,
ils sont super.
Non, moi je suis un peu choqué par eux, j'ai pas rien.
Mais c'est super, ils sont super, les gens de Dunkerque, genre du Nord, sont merveilleux.
Non, pas du tout, j'en ai bouffé du Dunkerque en national, les mecs.
Attends,
Fabien Mercadal.
Eh oui, bien sûr.
De camp là-bas.
Avec Gravelines, le basket et tout, enfin, c'est des vraies villes sportives. Et puis.
Cyprien Béthou me dit la boîte de nuit, le pirate. Visiblement, t'as fait des soirées là-bas. Eh ouais, tu vois, on va peut-être te faire aimer Dunkerque, Daniel. Ou pas.
Je sais pas que enfin. Vous aimez si vous avez envie d'aimer, vous êtes marrant.
Mais ce qu'on m'a dit aussi par rapport à Messi, c'est
que votre problème, c'est qu'en fait,
on s'en fout, on parle de Dunkerque, Fredo.
Votre problème, c'est que vous mettez tout, vous mettez tout au même niveau.
Mais non, on te dit qu'il y a plus, il y a pire que Dunkerque.
Non, mais si Dunkerque, c'est extraordinaire, moi je sais pas.
C'est toi qui compares Miami à Dunkerque.
Alors qu'est-ce que c'est que de vivre à Rome, à Florence, qu'est-ce que c'est que d'être, je sais pas si ça, de vivre à Madrid, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Si vous n'avez plus de mots, si votre vocabulaire, tous les mots ont le même sens. Moi, j'y peux rien.
Daniel, est-ce qu'il est possible de trouver Miami fantastique?
C'est moi qui compare, c'est l'autre qui dit extraordinaire.
C'est toi qui compares.
Dunkerque
moche.
C'est possible.
Daniel, ici, on voulait nous vendre les jambons portugais comme les jambons.
Oh, alors toi, mon gars, alors tu fais bien d'en parler de ça.
Je retiens le blind test. Je vous ai promis, je vais débarquer un soir en after. On fera un blind test avec vous, avec du jambon portugais, du jambon italien et du jambon espagnol. On fera le test en direct, je l'ai promis.
Pas un soir, Fred.
Mais on peut faire le
lundi soir.
On peut faire le blind test que tu veux, mon vieux. Mais si t'as un palais en bois, t'as un palais en bois.
Excuse-moi, le jambon espagnol. Et puis, alors, puisque tu parles de ça, moi, j'ai de grands amis à Miami que j'aime visiter, que j'ai rencontré.
Je connais très très bien deux jambons.
Mauvais espionnage parce que ces deux amis-là, ils mangent pas de jambon. Mais il y a quand même un gros problème quand tu vis aux États-Unis, c'est la bouffe, quoi. Parce que pour bouffer ça là-bas,
ça je te le garantis.
Mais sérieux. Hein, ça, non, parce que le problème, c'est que pour manger sainement, à Dunkerque, tu manges sainement. Parce que pour manger des bons légumes, de la bonne viande aux États-Unis, ou t'es milliardaire, ou sinon tu prends 50 kilos et tu bouffes plein d'hormones. Non, on est d'accord là-dessus.
On est d'accord.
Donc, moi, j'aime beaucoup aller aux États-Unis.
Tu n'as pas avoir de problème à s'acheter des bons légumes.
Non, mais ça, on n'en doute pas.
Donc, il va se les faire livrer avec. Et quelqu'un cuisinera pour lui.
Exactement. Mais pour le kidam, il vaut mieux vivre à Dunkerque, on mange mieux à Dunkerque qu'à Miami.
Bien mon Fredo, un tout petit mot, il nous reste quelques secondes vraiment sur Valence. Valence qui a encore fait match nul face au Betis. Valence qui compte une défaite et trois nuls depuis le début de la saison. Compte donc bien en plus, c'est très incertain pour le match de mercredi contre la Juve en plus.
Ouais, c'est
bizarre d'enchaîner une bonne saison et début cata là, comme ils font Valence.
Il y a eu le recrutement de Gamero, Guedes qui a été acheté. Moi, leur premier match cette saison, c'était le match contre l'Atlético, qui était un des plus beaux matchs que j'ai vu en Europe cette saison. C'était extraordinaire. Et voilà, ça. Voilà, mais après peut-être qu'il y aura une bonne surprise contre la Juve, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage, Valence. On peut pas dire qu'ils soient très sereins pour leur retour en Ligue des Champions. Puis ils ont quand même un groupe de folie, quand même. Hein, donc ça va pas être.
C'est pas
être facile. Ouais. Mais voilà, Valence tournait très très bien la saison dernière, aussi parce qu'il n'y avait qu'un match par semaine, il n'y avait pas de compétition européenne. Ouais. On se souvient de ce qui s'était passé avec Chelsea, en Angleterre, quoi. Voilà, donc c'est voilà, assez dubitatif sur Valence, mais le problème c'est que, et vous le savez très bien, la Liga Española, c'est que les équipes parfois souffrent en Liga, et dès qu'elles sont en Europe, ça va beaucoup mieux à cause du niveau qu'on sait dans cette merveilleuse Liga.
Ah, je croyais qu'il y a à cause de l'arbitre.
Bien sûr. Merci Fredo, il reste avec nous Fred, de toute façon on sera avec Julien Laurence, on va parler du foot anglais et des clubs anglais qualifiés en Ligue des Champions aussi dans quelques instants. Juste pour finir et pour être complet sur l'Espagne, sachez que le Rayo s'est imposé 1-0 face à Huesca ce week-end et que le but du Rayo a été marqué par un certain Gianni Moula, une patate, voilà, de 30 mètres, 25-30, allez. A tout de suite pour la suite de l'after avec nos drôles de dames, Daniel Riolo, Pierre Ducrot et vous sur le hashtag MC Live et sur l'application Direct Studio. Pierre Ducrot, Daniel Riolo sont là. Simone Rovera pour l'Italie, on y va dans quelques instants. David Bortolari pour l'Allemagne également. Fred Hermel aussi pour l'Espagne. Et Julien Laurence nous a rejoint pour l'Angleterre. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut, Julien. Alors, Julien, quelques petits résultats de cette cinquième journée de Première Ligue. Liverpool s'est imposé 2-1 face à Tottenham. City, adversaire de l'OL, ce sera mercredi, a battu Fulham 3-0. Chelsea, Cardiff 4-1 pour les Blues. United s'est imposé 2-1 à Watford. Le calendrier des clubs anglais en Ligue des Champions. Demain, 18h55, Inter Milan Tottenham. Demain, 21h, Liverpool Paris Saint-Germain. Mercredi, à 21h, il y a deux matchs. Young Boys Manchester United et Manchester City Lyon. On va débuter par Liverpool, qui demain soir reçoit donc le Paris Saint-Germain et qui a donc fait le boulot face à Tottenham. Première question que j'ai envie de te poser, Julien. On a vu Firmino toucher à l'œil. Il sera là ou pas demain, alors, l'attaquant brésilien de Liverpool?
Ouais, t'as raison, hein. C'est la vraie question de la journée, du soir. Il s'est pas entraîné aujourd'hui. Jürgen Klopp a dit que si le match avait eu lieu aujourd'hui, il aurait pas pu jouer. En revanche, il était content que le match ait lieu que demain parce qu'il y avait une chance qu'il joue. Personnellement, je pense qu'il va jouer demain. Je pense que c'est un joueur vraiment important.
La vraie question, c'est quand même, est-ce que c'est son œil directeur ou pas, quoi, pour viser? Surtout ça, la vraie question.
Oui, c'est ça. Alors après, il a pris dans l'œil, effectivement, par Vertonghen dans le match samedi après-midi. Il est parti à l'hôpital après. Il a été, ils l'ont laissé partir de l'hôpital en disant qu'il y avait rien de touché dans l'œil, rien de grave, etc. Il avait aujourd'hui, visiblement, et puis dimanche aussi, encore une petite gêne à l'œil. Ils n'ont pas voulu prendre de risque à l'entraînement au cas où il y a un autre contact, un autre choc avec son œil. C'est pour ça que je pense qu'il jouera demain. Après, effectivement, que Firmino soit là ou pas là, ça fait une énorme différence à cette équipe de Liverpool, c'est sûr.
Et alors, ce duel entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, ce sera le duel aussi entre Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, entre l'élève et le maître. Et Jürgen Klopp était aujourd'hui en conférence de presse.
Justement, s'il y a un truc à pas dire, c'est élève et maître.
Eh ben, alors, on le dit
ils
pas.
Ils n'ont aucun rapport.
Aucun rapport, alors.
Aucun rapport.
Il y a un aîné et un plus jeune, c'est tout.
Voilà, c'est tout. Il y a rien, quoi.
Donc,
c'est...
techniquement, il aurait pu être son prof. Klopp était en conf de presse aujourd'hui. Ah ouais. Et il a été très élogieux à l'égard de Thomas Tuchel. Écoutez-le.
C'est un manager fantastique. Il réalise une très grande carrière d'entraîneur. Il est passé par mes deux anciens clubs et il a même fait de très bonnes choses dans ces clubs. C'est une décision très intelligente de Paris d'avoir recruté un technicien comme lui, un manager qui sait encadrer son équipe.
Et je suis l'élève et il est le maître, tu vois? Ah, il a... D'ailleurs, c'était l'inverse, normalement. Alors, comment il est perçu ce duel, justement, entre Tuchel et Klopp, Julien?
Alors, les Anglais en parlent beaucoup. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas élèves et maîtres, Daniel a raison, parce qu'ils ont jamais entraîné ensemble. Mais quand Klopp est parti de Mayence et que Tuchel est arrivé ensuite une année plus tard, ils se sont beaucoup vus, ils ont beaucoup discuté par rapport au club de Mayence. Pareil quand ils se sont suivis à Dortmund, quand l'un a remplacé l'autre à Dortmund. Donc ils sont quand même assez proches, hein, ils se connaissent très très bien les deux. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble, mais voilà, c'est une vraie relation d'entraîneur où on s'appelle, on s'envoie des messages, on se voit, etc., etc. Et je pense qu'ils sont vraiment très proches. Après, les Anglais parlent beaucoup de cette confrontation entre les deux. Tactiquement, les Anglais se demandent vraiment comment le PSG va jouer. Est-ce que le PSG va jouer dans une configuration, on va dire, un peu normale, dans son 4-3-3 avec Neymar à gauche, Mbappé à droite, par exemple, et Cavani? Ou alors, est-ce qu'il y aura un rôle plus central à Neymar? Est-ce que ils vont jouer à 3 derrière, par exemple, pour blinder un petit peu les côtés de Bernat et de Meunier face à Salah et Mané, surtout si Firmino joue? Donc voilà, les Anglais se sont vraiment posé la question par rapport à tactiquement comment Tuchel allait approcher cette rencontre.
Alors tiens, des petites stats, hein, ça vaut ce que ça vaut. Parce
ils
ne se
sont pas dit que Salah pouvait faire mal à Bernat?
Si, si, justement, c'est pour ça qu'ils disent que peut-être le PSG va jouer à trois défenseurs centraux, et donc Bernat côté gauche et Meunier côté droit, si tu veux, pour blinder un petit peu ce côté gauche, pour que Bernat ne se retrouve pas tout seul en un contre un contre Salah à chaque fois, surtout que si c'est Rabiot, le milieu de terrain, qui joue de son côté, par exemple, qui est pas non plus un défenseur acharné du milieu de terrain, si tu veux. Donc c'est pour ça que les Anglais se sont vraiment posé la question aujourd'hui, comment est-ce que le PSG allait jouer demain?
Ils sont déjà affrontés pas mal de fois, hein, Klopp et Tuchel. Alors c'était d'autres réalités, notamment lorsque l'un était à Mainz et l'autre à Dortmund. 8 victoires pour Klopp, 3 matchs nuls, une seule victoire pour Tuchel. C'était en 2010, en avril 2010, c'était avec Mayence face à Dortmund 1-0. Là où la comparaison la plus intéressante, c'est entre...
Il y a eu en Coupe d'Europe en 2016.
Exactement, aussi. Exactement.
Mais la victoire de Mayence contre Dortmund, c'est pas un petit, phénomène, hein, parce que t'as pas le même effectif quand même. Hein.
Ouais, ouais.
De la part de Tuchel, c'était déjà un coup.
Ils avaient gagné 1-0. Là où la comparaison est la plus intéressante, Julien, c'est entre Liverpool et le Paris Saint-Germain depuis le début de saison, 5 victoires chacun. Alors c'est vrai qu'au niveau des buts, alors c'est du championnat certes et c'est pas les mêmes adversaires, le Paris Saint-Germain a plus marqué, Liverpool a une meilleure défense, le Paris Saint-Germain a plus de possession de balles, Liverpool tire plus par match en moyenne que le Paris Saint-Germain. Elle est pas mal cette confrontation aussi entre les deux équipes là.
Ouais, ouais, elle est vraiment bien, et Tuchel en a parlé aujourd'hui, hein, dans sa conférence de presse par rapport au pressing de Liverpool, à l'intensité qu'ils mettent, notamment ils récupèrent le ballon souvent assez haut, ils viennent vous chercher assez haut, il va falloir résister à cette pression, surtout à Anfield avec le public qui sera derrière cette équipe de Liverpool. Ça va être intéressant de voir comment le PSG justement ben, va gérer ça, avoir le ballon et savoir contrer le pressing de Liverpool. Je pense que le truc avec Liverpool, c'est que, ok, si Firmino est là ou pas là, ça va faire une différence, bien sûr, parce que s'il est pas là, est-ce que tu mets Salah dans l'axe et Shaqiri sur le côté? Est-ce que tu mets Shaqiri dans l'axe en faux numéro 9 ou tu lances Daniel Sturridge qui a pas beaucoup joué cette saison? Voilà, ce sera des réponses, des questions auxquelles club devra répondre.
Il n'y a pas de véritable neuf de substitution.
Il te reste que Sturridge, mais qui a un profil différent de Firmino.
Ouais, c'est plus un joueur de profondeur.
Sturridge, c'est un joueur de profondeur.
Exactement, ouais.
Pour le jeu qui est développé, on a l'impression qu'il n'y a vraiment que Firmino qui est capable de faire ce qu'il fait dans cette équipe.
Tiens, pour être complet sur ce match, hein, sachez que l'arbitre sera le Turc Junet Shakir, voilà, 41 ans, qui avait déjà arbitré le Paris Saint-Germain.
J'aime beaucoup cet arbitre.
Ouais.
Un de mes préfs en Ligue des Champions.
Bah, ce sera son 38e match de Ligue des Champions, ce qui est pas mal, hein, pour cet arbitre, qui avait arbitré le Paris Saint-Germain lors du match face au Bayern en 2017, victoire 3-1 des Allemands. Et il avait arbitré le 8e de finale, un partout, face à Chelsea en 2015 également. Mmh. Voilà, c'est la troisième fois qu'il arbitrera le Paris Saint-Germain. Un petit mot sur Tottenham qui affrontera l'Inter. Alors là, il y a beaucoup d'absents, Julien, du côté des Spurs. Loris, Sissoko, Ali. Et alors, on l'a pris aujourd'hui, il y aura pas Alderweireld. Ni Trippier.
C'est qui les absents?
Loris, Sissoko, Dele Alli.
Qui Sissoko?
Comment ça, c'est qui Sissoko?
Mais je sais pas, dis-moi. Tu me dis les absents.
Ah d'accord.
Bah, oui, il a joué depuis le début.
Ah, non, mais ok.
Bah, surtout la saison dernière d'ailleurs. Mmh. Ok. Alderweireld et Trippier. Je me suis dit merde, j'ai dit une connerie. En fait, non, c'est lui qui a dit une connerie.
Et Aurier, il est où en fait?
Bah, il est là-bas.
Il est absent.
Il t'attend d'ailleurs. Hein?
Il joue pas.
Ça fait du monde absent, Julien.
C'est étonnant quand même, l'ancien meilleur arrière droit d'Europe.
D'Europe.
C'est étonnant quand même. Ouais. Il joue plus.
Mais il va jouer demain. Hein. Il va jouer demain.
Oui, parce qu'il n'y a pas Trippier.
Là, il va jouer. Ouais.
Là, il va jouer. Donc on verra. Mais ouais, beaucoup d'absents. T'as raison. Dans une période très difficile pour Tottenham, qui a perdu deux matchs d'affilée en championnat pour la première fois depuis la saison 2015-2016. Ils ont été donc battus par Liverpool à Wembley samedi, on l'a dit, et puis bien battus. Hein. Battus comme il faut. En plus, ils ont vraiment été médiocres. Tellement médiocre que même Pochettino avait du mal à y croire après le match. Le nombre de passes ratées, même des passes faciles. Ils avaient perdu avant la trêve internationale à Watford après avoir mené 1-0. Ils prennent deux buts sur coup de pied arrêté en deuxième période aussi. Ça va vraiment pas bien. Harry Kane qui est pour l'instant en tout cas. Pardon?
Moi je te disais Loris manque parce que Vorm il prend deux buts quand même. Enfin voilà.
Ah oui c'est sûr. Hein, le premier surtout il rate son engagement. Alors sur le premier but de Liverpool de Wijnaldum. Il y a un truc vachement intéressant, c'est que sur le corner, au marquage d'ailleurs, Eric Dyer, et au marquage de Kieran Trippier, son propre partenaire. T'as vraiment l'impression, si tu regardes les images,
c'est bon, ça.
Que c'est un mec de Liverpool, il est au marquage d'un mec de Liverpool, et au dernier moment, il se rend compte que c'est Trippier, il saute, il remet le ballon sur Wijnaldum, qui marque de la tête après. C'est assez incroyable ce qui leur arrive, parce qu'ils avaient quand même gagné 3-0 à Old Trafford contre Manchester United, il y a 3 semaines. Et là, ils traversent vraiment une période compliquée.
Et alors mercredi 21h, Lyon ira à City, à l'Etihad, jouer face à Manchester City. Tiens, comment les Lyonnais sont perçus en Angleterre? Qu'est-ce qu'il en dit Pep Guardiola de l'Olympique Lyonnais?
De Pep Genesio?
Ouais.
Honnêtement, rien du tout pour l'instant. Mais vraiment rien.
Ah oui, mais ouais, qu'est-ce que tu veux qu'ils en disent? Lyon,
je sais pas, il y a des questions forcément.
Mais Lyon, au niveau européen, c'est pas... Voilà, c'est un peu fini. Donc,
ils veulent s'imposer sur un match comme ça. Ils veulent s'imposer
pas pour eux, c'est victoire. Quoi. Ils peuvent pas voir la chose autrement.
Alors City qui a gagné 3-0 face à Fulham ce week-end. Alors si Pep, il dit rien sur l'Olympique Lyonnais, il a été très élogieux à l'encontre de Bernardo Silva ce week-end. On va l'écouter dans quelques instants d'ailleurs. Pep Guardiola sur Bernardo Silva. On y va, Cyprien, ou pas? Tu nous le mets? Aos? Non, on l'a pas.
On l'a pas. Si, on a vraiment que des problèmes techniques.
Alors, cela dit, il y a pas mal d'absents du côté de City, hein, Julien là aussi. Alors, De Bruyne, Mendy, on a des news d'ailleurs ou pas? Parce que Guardiola annonçait qu'il était blessé, mais il en a pas dit plus.
De nouvelles aujourd'hui, mais il semblerait quand même qu'il se trouve à forfait pour le match de demain. C'est pas très grave, visiblement, il a pris un coup à l'entraînement. Mais je pense qu'ils prendront pas de risque demain, surtout qu'ils sont un peu en galère au niveau des arrières gauches, hein, parce que Fabien Delph, lui aussi, devrait pas pouvoir jouer demain contre Lyon. Donc ça commence à faire beaucoup. Il leur reste un jeune Ukrainien Zinchenko qui pourrait jouer, mais qui a pas du tout joué de la saison pour l'instant. Ou alors après, tu mets Laporte, par exemple, tu le fais passer de l'axe gauche à arrière gauche, ou tu fais jouer Kyle Walker arrière gauche à la place de son poste d'arrière droit, et tu fais rentrer Danilo. Quoi. Mais je pense qu'ils prendront pas de risque ni avec Delph ni avec Mendy pour le match contre Lyon mercredi.
Et ça y est, on l'a retrouvé, Pep Guardiola sur Bernardo Silva. Écoutez-le, élogieux.
Il mérite de jouer toutes les minutes qu'il joue. C'est un bon exemple pour tous les autres. Je n'oublie pas le comportement qu'il a eu la saison dernière. Il a beaucoup joué, mais peu en tant que titulaire. Et je n'oublie pas non plus son comportement avec ses coéquipiers. C'est un exemple. Même la saison dernière, quand les gens me posaient des questions sur Bernardo, je disais que je ne savais pas ce qui allait arriver dans le futur. Mais si je reste, il reste. Il mérite tout mon respect en tant que professionnel. Normalement, statistiquement, on s'aperçoit que c'est le joueur qui a le plus couru. À chaque match, il court 11, 12 ou 13 kilomètres et toujours dans le bon tempo. Donc merci beaucoup à Manchester City d'avoir acheté ce gars à Monaco.
Très bien ça, c'est excellent. Très très bon. Donc on peut dire, Julien, tu le vois comme ça, non seulement on le voit sur le terrain, il y a les phrases de Pep Guardiola, Bernardo Silva est devenu un titulaire dans cette équipe.
Ouais, t'as tout à fait raison. Hein. 4 matchs sur les 5 de championnat pour l'instant comme titulaire. Déjà après le Community Shield au mois d'août là, à la fin du match, Pep avait dit aujourd'hui il y avait Bernardo Silva et 10 autres joueurs dans mon équipe. C'est vrai qu'il avait déjà été très très bon dans ce match-là contre Chelsea. Là par exemple contre Fulham, alors d'accord, c'était que Fulham samedi, il a été exceptionnel. Mais vraiment, tu sais, dans la conservation du ballon, dans le jeu à une touche de balle, parfois deux touches de balle, il jouait très simple, il trouvait toujours les espaces comme il fallait. Il le fait jouer un peu plus central que par exemple on avait l'habitude à Monaco où t'es vraiment sur un côté. Et là vraiment, depuis que De Bruyne s'est blessé, t'as l'impression qu'il le met là dans l'axe pour remplacer De Bruyne avec David Silva et Fernandinho derrière qui fait le travail défensif.
Ouais.
Ah voilà.
Non, c'est bien. J'ai noté évidemment dans les phrases de Pep Guardiola la stat sur les kilomètres parcourus.
Ouais, j'étais sûr que ça te plairait.
Mais évidemment, mais la plupart des entraîneurs aujourd'hui à ce niveau-là, le mec qui court pas minimum 10 kilomètres, il rejoue pas le match d'après.
Ah oui, 10 c'est le minimum.
J'ai fait exprès d'arrondir
pour le minimum. Et d'ailleurs dans la stat qu'il donne, je la trouve un peu large parce que 11, 12, 13, c'est pas la même chose entre 11 et 13. Hein.
Entre 11 et 13, c'est déjà pas la même chose. Mais aujourd'hui, c'est les stats qui sont analysées, celle-là et celle des courses à haute intensité. Et ça montre la générosité et de toute façon dans le système de Guardiola, même si c'est tactique, même si évidemment la technique, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, dans le foot, c'est la même pour.
Ah, mais c'est
exactement la même pour Klopp. Hein.
C'est surtout
les kilomètres parcourus, c'est leur stade préféré.
Pour ces équipes qui gardent le ballon, si t'as pas de mouvement et que les mecs bougent pas sans arrêt pour
l'intensité
pour donner des solutions, t'en as pas de solution. Récupérer le ballon.
Mais le pressing que tu veux faire, là où tu veux récupérer la balle, ouais. C'est intéressant que Pep le dise de cette façon.
Alors à Manchester United jouera mercredi face aux Young Boys United qui a battu Watford, alors qui était l'un des co-leaders hein, d'ailleurs au coup d'envoi de cette 5e.
Ah, c'est calmé la pression sur Mourinho, Julien.
Deuxième victoire de suite, toi, Julien.
Ouais, ça s'est calmé un peu. Bah, il a fait son plan comme il fait d'habitude hein, quand t'es un peu comme ça en crise, quand il est un peu contesté comme ça, il amène Marouane Fellaini et puis il blinde partout. Fellaini qui a joué les deux derniers matchs titulaires, forcément c'est plus solide côté de Manchester. Tu dirais que le football est pas le plus sexy, c'est pas super super génial, super attractif, mais ça gagne, c'est solide, ils sont efficaces. Lukaku, Smalling qui marque ce week-end, De Gea qui sort un gros match à Watford, et puis voilà, c'est, tu prends pas de risque. C'est exactement ce qu'il leur a dit, on prend pas de risque, on est solide, on est efficace, et tu retrouves la victoire de cette manière-là, quoi.
Et comment va Pogba?
Alors, il y a une petite polémique d'ailleurs autour de lui, là, paraît-il, en Angleterre, là, Julien.
Ouais, il y a une petite polémique. Ouais, certains supporters de United qui sont pas très contents qu'ils soient sortis samedi soir, donc ils sont rentrés en train de Watford à Manchester, et
en
effectivement, ils avaient le dimanche de libre.
C'est quoi ce Clodo, ils ont pris le train?
Ouais, ils prennent le train, ouais.
Les mecs de Manchester United.
Julien, t'as combien de temps de train?
Milan pour aller à France, pour aller à Rome.
2 heures en train.
Rome pour aller à Naples.
Même pas 2 heures de jet privé, quand même, non?
Mais Arsenal, par exemple, pareil pour monter aussi, prend souvent le train pour monter.
Bien sûr.
Ouais, ça arrive de plus en plus régulièrement ici.
Mais t'es beaucoup mieux dans un train.
Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben après, ils sont sortis, Lukaku, Martial, Fellaini et Pogba. Mais avec Benjamin Mendy et Riyad Mahrez aussi. Et effectivement, ça a fait un peu grincer des dents côté supporter, d'ailleurs des deux clubs. Hein. Si tu veux, c'est la phrase, mais Gary Neville serait jamais sorti avec Jamie Carragher à l'époque, ou tu vois, les trucs de rivalité.
Oui, mais on n'est plus à l'époque de Gary Neville.
C'est vrai.
C'est pas qu'on est plus à l'époque, mais les joueurs qui ont été cités là, c'est pas des mecs qui sont excessivement attachés au club dans lequel ils sont. C'est des mecs de passage.
En plus,
Ils font leur carrière et tout ça. C'est des mecs qui se caguent un peu de ces histoires-là. Ils ont pas la culture foot pour
c'est
ça.
Mais c'est des mecs qui sont potes à côté. Ils sortent ensemble.
Mais c'est ce que je te dis.
Non, mais après ils ont publié des photos sur les réseaux sociaux.
En
plus, c'est peut-être ça qui a été mal perçu.
Si tu prends ce genre de joueur dans un club, et c'est ce que font beaucoup d'équipes aujourd'hui. C'est pas des mecs qui vont être attachés, ou alors ils le seront. Je sais pas, peut-être au bout de 10 ans. Je sais pas, un mec comme Patrice Evra, au bout d'un moment, Manchester United, tu l'aurais pas fait faire un truc pareil, quoi. Il avait immédiatement compris la culture du club.
C'est pas forcément tout le temps la faute des joueurs.
Il y a aussi que les clubs ne te permettent
pas,
plus d'avoir.
Tu vas pas empêcher le mec de Manchester City de sortir avec celui du United s'ils sont potes, s'ils se fréquentent en équipe de France. Oui, évidemment. Après, publier la photo, bon là, c'est pas très malin.
C'est, c'est peut-être ça qui était mal pris.
Pas très malin.
Après, tu te fasses toi photographier alors que t'es dans une soirée privée. Ouais. Tu voulais réagir, Fred?
Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est le problème, c'est que on a toujours beaucoup raconté sur des haines, etc. Là, là, alors que les mecs étaient très potes, sauf qu'aujourd'hui tout se sait. Ouais. C'est ça la différence.
Ouais.
Voilà, il y a des rivalités qui ont été vécues. On dit, oui, à l'époque, ça serait pas passé, alors que les mecs allaient boire des coups ensemble, et que ça, mais il y avait pas les photos, il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça, quoi, tu vois. Donc je pense, je suis pas sûr qu'il y avait plus de respect auparavant pour des rivalités, etc. Quoi, voilà. Je peut-être que je me trompe.
Moi, je pense. Mais je pense
qu'au moins brésilienne plus connue, les Picanhas, les Brésiliens de l'Inter du Milan, ensemble après.
Oui, parce que
en plus ils sont les restaurants argentins quand il y avait Ayala à Milan.
Et bien sûr. Mais est-ce que les Italiens faisaient?
Parce que ce sont des étrangers. Parce que
c'est... Les Milanais, non, peut-être non. Ah, voilà. Mais les étrangers,
les intéristes, peut-être le faisaient pas.
Après,
Totti, ça veut pas dire que c'est avec de la Lazio, tu vois.
Ça veut pas dire que c'est mieux, d'ailleurs.
Tu crois que si Totti avait eu un pote ou un ami plutôt à la Lazio, il serait pas sorti avec?
Seulement qu'il prenait pas en photo.
Je pense que si. Oui, voilà.
J'aimerais qu'on finisse sur l'Angleterre. J'aimerais qu'on finisse sur l'Angleterre avec la belle histoire du week-end, Julien. Et elle concerne N'Golo Kanté. Alors, Chelsea a cartonné Cardiff 4-1. N'Golo Kanté a joué. Alors, la belle histoire, elle s'est passée sur le canapé d'un inconnu avec N'Golo Kanté. Raconte-nous ça. Non, mais c'est une super belle histoire. Vas-y, Julien.
Ouais, c'est vraiment une super histoire. Donc N'Golo Kanté, comme tu l'as dit, bat Cardiff avec Chelsea. Encore une fois, ils ont le dimanche de libre. Il rentre à Paris, mais il rate son Eurostar, le dernier Eurostar. Qu'est-ce que fait N'Golo Kanté quand il rate son dernier Eurostar? Il va sur Google, sur son téléphone, il tape la mosquée la plus proche. Il trouve la mosquée la plus proche à King Cross, Saint-Pancras. Il se rend à la mosquée pour aller prier. Là, bien sûr, forcément, les mecs, ils le reconnaissent. Ils disent, N'Golo Kanté dans notre mosquée en train de prier. Il l'invite à manger un curry à côté de la mosquée chez lui, donc chez ce gars-là. N'Golo Kanté accepte, bien sûr. Il va manger le curry, et puis là, ils mettent la télé, et ils se regardent tranquillement Match of the Day, qui est l'équivalent anglais de jour de foot, si vous voulez. Et donc, t'avais N'Golo Kanté dans le salon, en train de manger son curry, en train de se regarder lui-même jouer, en train de regarder le résumé de Chelsea Cardiff à la télévision, chez des mecs qu'il avait jamais, qu'il connaissait pas d'avant, qu'il avait rencontré une demi-heure ou une heure plus tôt. C'était exceptionnel, et puis après, il a fini son curry, il a fini l'émission, il est rentré chez lui.
C'est génial.
Exceptionnel.
Voilà. Quand t'es simple, il t'arrive des belles histoires.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous.
Merci les gars.
À très vite Julien, bonne soirée. Salut. Et puis à demain, parce que demain il y aura donc pas mal d'affiches qui concernent les clubs anglais et les clubs français.
On va traduire un truc quand même, parce que moi qui ai des copains anglais, un curry ça a l'air de manger dans un resto indien, c'est ça non? C'est de la bouffe indienne.
Ouais.
C'est comme ça qu'on appelle.
Ouais, manger indien, ouais.
Voilà, parce que les anglais disent allez un curry quoi, voilà.
Dans quelques instants, Simone Rovera va nous analyser.
Quelle culture ce frère d'Hermès.
J'ai des copains anglais.
Il nous fout ça à la gueule comme ça, comme si de rien n'était.
Non, mais je suis désolé, mais moi, j'ai appris ça il y a 2-3 ans par des copains anglais, quoi. Alors, si vous savez tous que les anglais disent curry quand ils vont dans un restaurant indien, vous saviez tous?
On a compris.
Je pensais
les anglais disent on va manger indien, il dit, we're going to have a curry or to eat a curry.
Moi, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont cru qu'il allait au supermarché prendre la boîte de curry de la famille Ducrot et puis il l'a enseigné comme ça, tu vois, il se l'est versé dans le gosier.
C'est toi l'héritier
Ducrot.
C'est pas pareil, c'est un pseudo. Parce que le père Ducrot il est pas de cul, toi t'as un cul.
Ah, j'en ai un beau.
Le fameux culot dont on parlait tout à l'heure à Fred Hermel. Allez, à tout de suite avec le rôle de dame et Daniel et Pierre. Avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo, Simone Rovera et là David Bortolari, Fred Hermel également. On file tout de suite en Italie, jingle Simone Rovera.
Chiellini que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite. J'ai totale confiance à Giorgio Chiellini dans le terrain et dehors le terrain.
Merveilleux. Bah justement, la Juve qui s'est imposée 2-1 ce week-end face à Sassuolo. Parme a battu l'Inter 1-0. Victoire du Napoli 1-0 face à la Fiorentina 2-2 entre la Roma et le Chievo. Cagliari a battu Milan. Il y a eu un partout entre Milan et Cagliari. Et toi, tu voulais parler du Napoli. Le Napoli qui jouera ce week-end face à l'Étoile Rouge. Et pour toi, le 4-4-2 mis en place par Ancelotti, bah, ça te plaît?
Oui, ça me plaît parce que il cherche pas à forcer de changer d'idée, des systèmes, de vouloir détruire ce que c'était les jeux de Sarri. Mais petit à petit, il met en place certaines choses. Milik
plus titulaire que Mertens, même si c'était Mertens titulaire face à la Fiorentina. Et cette idée du 4-4-2, qui ça me rappelle un peu son système avec le PSG, les systèmes en Europe, match face Valence, face Porto. C'est-à-dire, c'est un système que Carlo Ancelotti utilise souvent pour mettre les choses en place. Après, il peut évoluer. Mais l'idée du 4-4-2, plutôt carré, avec une Insigne, deuxième attaquant, avec Caleone, latéral 3, Zielinski, pour trouver une colocation la saison dernière, c'était compliqué. Là, il a joué sur la gauche, mais c'est quand même un milieu qui peut tout faire. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que l'équipe d'Ancelotti est en train vraiment d'échanger de ces
Sarri. Quand tu vois jouer vraiment par rapport à Sarri, donc il y a des joueurs qui jouaient pas qui jouent, le système est différent. Il y a clairement, ça saute aux yeux que c'est différent.
Il y a moins le besoin de garder les ballons. T'as pas les monopoles du ballon, t'as pas Jorginho. Donc ouais, ça change beaucoup des choses. C'est une Napoli qui souffre beaucoup plus parce qu'à moins des ballons, donc est habitué
à concéder plus d'occasions.
Concède un peu plus d'occasions. La Fiorentina n'aurait pas mérité de perdre ces week-ends, mais quand même, c'est Napoli petit à petit en train d'échanger des visages. Je pense que ça peut être plus intéressant en Europe. Naples n'est pas un candidat à la victoire. Naples n'est peut-être même pas un candidat à aller à un quart de finale. Peut-être même pas sortir de la poule.
L'étoile rouge.
Ben, c'est candidat à battre l'étoile rouge et stop, en théorie. Mais attention, Carlo Ancelotti n'est pas quelqu'un qui se fait éliminer souvent en Ligue des Champions. Et c'est une Naples qui est en train, comme j'ai dit, d'être un peu plus européenne, à mon avis. Je crois dans ces projets d'Ancelotti. Mais les gens,
qu'est-ce que t'appelles plus européenne?
Peut-être plus performant en Europe qu'avec Sarri.
C'est-à-dire plus pragmatique en Europe.
Plus pragmatique. C'est 4-4-2, à mon avis. C'est beaucoup pragmatique. Mais Mertens, c'est pas en forme. Milik joue. Insigne, c'est le plus grand pari d'Ancelotti. S'il fait arriver Insigne à franchir un cap. Et il y a une image très belle. Insigne marque un but. Il sort du terrain. Et Ancelotti l'embrasse sur la tête. Il donne un bisou sur la tête. Et c'est une geste qu'Ancelotti ne fait pas souvent. Il les faisait avec Kaka, avec Gattuso, avec ses joueurs un peu chouchou. Et là, tu comprends qu'Insigne est en train de devenir pour Ancelotti un joueur majeur. Et on dit, ceux qui le connaissent, qu'il y a une des raisons qui l'a poussé à aller à Naples, c'est parce qu'il était excité de l'idée d'entraîner un talent comme Insigne, chercher de le faire sortir un peu de son trou et le faire devenir quelque chose de plus important.
Mais l'attente autour de Naples en Italie cette année, c'est la même qu'avec Sarri l'année dernière, où c'était ils vont aller jouer le titre contre la Juve et on attend du beau jeu.
Ancelotti croit. Ancelotti croit.
Oui, je te confirme qu'il y croit beaucoup. Pour lui, l'objectif c'est de gagner le scudetto, ça c'est clair.
Parce que il croit qu'il peut donner un peu cette pragmatisme en plus, mais l'attente qu'il y a, c'est est-ce qu'ils vont faire quelque chose en plus en Europe. Et il tombe dans une groupe très très compliqué, mais Ancelotti n'a pas peur. Et donc Naples n'a pas peur. Je dis pas que Sarri avait peur de l'Europe, mais Sarri s'était pas intéressé.
Il s'était trop braqué sur le championnat. C'était le truc absolu de vouloir.
Je me rappelle de un ou deux avis tranchés de Simone au début de saison où c'était ça. C'était que le championnat. L'Europe ne comptait là-dessus pas. On s'en foutait quoi.
On va dire un mot également sur l'Allemagne. On n'a pas été bon sur le chrono aujourd'hui, mais tu reviendras de façon. Tu
n'as pas été bon. C'est à toi de faire ça. C'est à toi de gérer le chrono. Je suis désolé.
Ronaldo a mis un doublé quand même. En Italie, alors, on désespérait, il a marqué.
Nico, méfie-toi parce que Ribéry est parti avant les arrêts de jeu ce week-end du SAD. Donc moi, je peux aussi partir avant la fin.
Il a raison. En parlant de ça,
ça sent un peu le pourri, Ribéry. C'est la fin. Nico Kovac a compris que c'était la fin et lui il veut pas comprendre que c'est la fin.
Non, ça c'est un point de vue.
C'est une question.
Le point de vue de Ribéry, c'est je vais jouer jusqu'à 38 ans et je vais prolonger encore un an au Bayern.
Après,
il faut trouver le.
Mais ça s'est arrangé ou pas cette histoire?
Oui, ça s'est arrangé bien sûr.
Il va être sanctionné.
Oui, alors il y aura peut-être une amende. Mais c'était pour des raisons familiales, c'était prévu apparemment
mais il peut
en amont.
En Bundesliga, mais tu le vois encore en Coupe d'Europe, t'as un gros niveau.
Oui, bien sûr, parce que il est compétitif.
Non, mais il est vieux, Ribéry. Il est haut quand même, 35 ans quoi.
Oui, mais c'est pas.
Il y en a d'autres des vieux qui ont été bons.
L'année dernière, il a pas été. T'as des gens qui ont plus de 35 ans et.
Quand ça a commencé à se corser, ça
devient.
Il avait toujours chez lui vraiment la volonté de continuer, mais. Il y avait c'était plus aussi tranchant.
Mais normal. Alors un mot David également sur Tolisso. Alors
ouais, c'est ce que je voulais dire.
Hier, il a donné de ses nouvelles d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Voilà, avec beaucoup d'humour en disant c'est bon, je suis prêt pour mercredi parce qu'il joue face au Benfica en Ligue des Champions. Il était sur son lit d'hôpital sur cette photo également. Comment elle a été accueillie cette nouvelle en Allemagne? C'est un drame pour le Bayern.
Ouais, il y a quand même un semblant de parano qui s'est installé. Eunes a été hors de lui, l'entraîneur aussi, parce que les blessés commencent un petit peu à s'accumuler au Bayern. Il y a Rafinha aussi qui va manquer parce qu'il a été victime d'un très mauvais geste de Bellarabi ce week-end. Le Rudy est parti au milieu de terrain, Vidal est parti, on le sait. Goretzka aujourd'hui s'est blessé à l'entraînement. Apparemment, ça va aller pour ce milieu de semaine. Donc le Bayern va jouer ce match avec 18 pros à disposition. Mais on a quand même eu peur parce que effectivement il y a eu un souci de blessure qui rappelle des mauvais souvenirs au Bayern. Robben a ressorti son refrain habituel en disant on ne sera performant et on ne pourra gagner la Ligue des Champions que si on arrive en février-mars avec tout l'effectif. Au Bayern, on a laissé partir des joueurs pour rationaliser un peu tout ça. Évidemment, si les blessés s'accumulent, ça va être un peu plus compliqué.
Ouais. Bayern, gros favori hein, face au Benfica.
C'est un logique. Groupe quand même qui est largement à leur portée. Et puis l'équipe est très au point. Elle dégage une impression de puissance en championnat. On va voir si ça marche aussi en Ligue des Champions. C'était assez impressionnant ce week-end. Leverkusen va pas bien en ce moment, mais c'était quand même.
Va se faire danser.
Tu m'as rendu des équipes en plus.
Je pense que ça peut faire du dégât, ouais.
Oui, aïe.
Dortmund qui a battu l'Eintracht Francfort, alors qui sera l'adversaire en plus de Marseille jeudi, très vite à 20 secondes.
Info importante, Paco Alcacer qui a trouvé ses marques déjà parce qu'il a marqué un but. Voilà, mais ne sera pas présent parce qu'il est légèrement touché physiquement. Il sera pas présent. Il y a un autre absent de marque à Dortmund pour le match de ce milieu de semaine.
Pas très bien, Dortmund sont deuxième, ils sont calés, ils sont pas trop.
Oui, mais ils sont pas au point encore du tout. Favre a beaucoup de travail. Il y a une équipe qui est quand même largement bouleversée. Devant, derrière, au milieu aussi, il a beaucoup de travail pour mettre un peu tout ça en place. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi, et il va donc manquer Paco Alcacer et Delaney en ce milieu de semaine pour la Ligue des Champions. Donc on ne sait pas. Peut-être même que Götze pourrait réapparaître et enfin revenir sur le terrain.
Oh là là.
Merci beaucoup David, merci Simonet, merci Fred, merci Pierre, merci Daniel.
Merci Nicolas, merci à tous ceux qui nous ont aidé à préparer
cette émission.
La Champions.
Et demain, à partir de 18h sur RMC Sport, la Ligue des Champions, bien entendu. Et tiens, le temps de vous rappeler également qu'il y a une nouvelle appli RMC Sport qui est gratos. Téléchargez-la. Voilà, vous allez voir, il y a plein de nouveautés dessus. Allez, bisous, à demain, ciao.